Voilà, donc aujourd'hui j'ai intitulé mon message, vous savez qu'on est dans l'évangile de Jean, « Sept preuves de la divinité de Jésus-Christ ». Sept preuves de la divinité de Jésus-Christ. On est dans Jean chapitre 5 et je vais lire les versets qu'on va aborder ce matin. Jean 5 et on va commencer au verset 16, d'accord ? Donc on reprend le dernier verset du message de la semaine dernière pour nous plonger dans le contexte. Et ensuite on va lire jusqu'au verset 29. Donc vous rappelez, juste pour, en deux mots, c'est que Jésus vient de guérir le paralytique, mais il l'a guéri le jour du sabbat. Et alors à partir du verset 16, il est dit, « C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera les œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Eh bien, que Dieu bénisse sa parole ce matin et que nous puissions comprendre le but de ce texte incroyable. Donc, cette preuve de la divinité de Jésus-Christ. En fait, la question qu'on veut se poser ce matin est celle-ci. Alors, tenez-vous bien, c'est une question importante. La voici. Qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Écoutez, c'est non seulement une question importante, c'est une question fondamentale. Fondamentale. En fait, c'est une question que les gens se sont posées tout au long de l'histoire. Mais qui exactement est cet homme qu'on appelle Jésus ? En fait, dans Matthieu 22, 42, un jour, Jésus parlait avec des pharisiens qui étaient perplexes par rapport à sa personne. Et Jésus leur pose cette question, « Que pensez-vous du Christ ?» Alors, le mot « Christ » veut dire « Messie ». « Que pensez-vous du Messie ?» virgule, « Pensez-vous que c'est moi ?» Jésus, en fait, pose comme question ici. Alors, de nos jours, il y a beaucoup de théories et d'opinions par rapport à la question de l'identité de Jésus. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les libéraux. Alors, les libéraux affirment que Jésus n'était rien de plus qu'un homme qui enseignait de bons principes moraux. Donc, écoutez-le, parce que ce qu'il enseigne, c'est bien. Mais c'est juste un homme. D'autres, comme les témoins de Jéhovah, affirment que Jésus est une création divine, donc que Jésus a été littéralement créé par Dieu, et que Jésus est donc pas Dieu créateur. Jésus est donc en dessous de Dieu parce qu'il a été créé par Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les Mormons se promener à droite et à gauche. Eux, et là, il faut les interroger parce que ce n'est pas publié. Mais c'est absolument vrai, vous pouvez les regarder. Les Mormons, eux, affirment que Jésus, tenez-vous bien, est le frère de Satan. Les musulmans, quant à eux, affirment que Jésus est simplement un prophète. Un prophète. Et nous, les chrétiens évangéliques, nous affirmons que Jésus est Dieu en chair humaine, Dieu incarné. Qui a raison ? Alors, ce débat sur l'identité de Jésus n'est pas nouveau. Dans l'histoire de l'Église, la plupart des fausses doctrines et des sectes dites chrétiennes ont toujours surgi à cause d'une confusion sur la personne de Jésus-Christ. Ceci dit, il y a toujours eu au long de l'histoire des fausses conceptions de l'incarnation. Les hommes ont toujours voulu nier le fait que Jésus est pleinement Dieu. C'est un immense débat dans l'histoire. Il y a un groupe qui s'appelle les Ebionites. Eux niaient la réalité de la nature divine de Jésus, et cela en dépit de Jean 1.1 qu'on a déjà vu en détail, mais c'est quand même intéressant parce que Jean 1.1 dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu ». Donc la parole était Dieu, au verset 14, ensuite, il est dit quoi ? Et la parole, donc, qui était Dieu, est devenue, a été faite chair et elle habitait parmi nous. Donc c'est très difficile de prendre Jean 1, 1 et 14, aller sur le premier message que j'ai donné sur Jean pour le voir, et de conclure autre chose que la parole, Dieu, a été faite chair. Mais les Ebionites, c'est ce qu'ils ont dit. Et cela a été dénoncé au concile de Nicée au 4e siècle. À l'autre bout du spectre, il y a les gnostiques. Eux niaient la réalité de la nature humaine de Jésus. Alors l'apôtre Jean, lui, a refuté cette doctrine dans 1 Jean 1, 1 et 2. Il y a encore un autre groupe qui s'appelait les Arians. Eux affirmaient la préexistence de Jésus, mais niaient sa divinité. Et c'est en fait la position des témoins de Jéhovah. Ça. Il y avait encore ce qu'on appelle les Nestoriens. Eux enseignaient que les deux personnes vivaient dans le corps de Christ, une personne humaine et une personne divine. Alors ça paraît presque juste, mais c'est faux, parce que Jésus est un, pleinement Dieu et pleinement homme, pas un et un. Il y a encore les Utéchiens ou les Utichiens ou les Utikiens, je ne sais pas comment on dit exactement, d'accord. Eux, ils sont encore à l'autre extrême et disaient que les deux natures de Jésus, la nature humaine et la nature divine, étaient mélangées pour créer carrément une troisième nature distincte et différente des deux premières natures. Donc finalement, Jésus, il y avait trois personnes en lui. Mais ce n'est pas fini, il y a encore les Sauciniens. Ça n'a rien à voir avec des saucisses, d'accord ? Qui existait pendant la réforme du XVIe siècle et enseignait que Jésus n'était qu'un homme, le fils naturel de Joseph et Marie. Cette doctrine dite libérale fut adoptée par les hommes comme Schleiermacher au XIXe siècle. C'est vraiment ce qu'on appelle la doctrine libérale. Alors, voici la question fondamentale. Qui est donc Jésus ? Qui est donc Jésus ? Eh bien, dans Jean 20 et le verset 30, l'auteur nous donne, ou nous le dit très simplement, dans le but de l'évangile de Jean, il dit ceci. « Mais ces choses, donc parlons de l'évangile de Jean, ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, virgule, le Fils de Dieu, virgule, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Dans l'évangile de Jean, l'auteur veut donc premièrement, nous prouver que Jésus est le Christ. Donc, il veut dire, voilà, Jésus est le Messie promis de l'Ancien Testament. Deuxièmement, et ne ratez pas ce détail, il veut nous prouver dans Jean 20, 30, que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, on va y revenir tout à l'heure. C'est super important comme phrase. Quand on dit simplement Jésus est le Fils de Dieu, on le dit un petit peu en passant. Mais ce que ça veut dire, quand on comprend ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment, vraiment important, d'accord ? Et pointe à la divinité de Jésus. Ça, on verra tout à l'heure. Mais c'est ce que Jean veut prouver. Qu'il est, un, le Christ, le Messie. Deux, le Fils de Dieu. Et le résultat, qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle en son nom. Donc, écoutez bien, se tromper sur l'identité de Jésus, c'est pas une mince affaire. Parce que se tromper sur l'identité de Jésus crée la différence entre avoir la vie éternelle et pas avoir la vie éternelle. Encore plus radical, se tromper sur, enfin pas plus radical, c'est juste dit autrement dit, se tromper sur l'identité de Jésus, nous dit Jean 3, 36, égale quoi ? Celui qui croit au Fils, donc le Fils qui est le vrai Fils de la Bible, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ou qui croit au faux Fils, à celui qui n'est pas le Fils, ne verra point la vie, mais quoi ? La colère de Dieu demeure sur lui. Donc, écoutez, mes amis, l'identité de Jésus-Christ, de louper ce point-là, peut avoir une conséquence éternelle dans une vie. Donc, ce n'est pas une mince affaire de faire cette étude sur l'identité de Jésus-Christ. Et ce qui est merveilleux, c'est que, déjà, on a vu plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, comment Jean essaie de nous montrer que Jésus est façon d'identité, mais ici, c'est vraiment très très clair, on va comprendre qui il est. D'accord ? Alors, revenons à notre texte. Juste un mot sur le contexte. Le verset 16, où il est dit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses au jour du sabbat. Alors, on n'aimait pas Jésus parce qu'il avait guéri un paralytique à la piscine de Bethesda le jour du sabbat. Ça, on a vu la dernière fois. Au verset 17, Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc Jésus saisit l'occasion pour affirmer ici qu'il était égal au Père et que son action de guérir le paralytique le jour du sabbat était conforme à l'intention du sabbat établi par Dieu. Au verset 18, on y reviendra, d'accord ? Au verset 18, regardez, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Donc ils sont tellement en colère qu'ils veulent qu'il meure, ils veulent le tuer. Pourquoi ? Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, mais regardez, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, les Juifs entendent ce que prétend Jésus, comme quoi il est égal à Dieu, et veulent d'autant plus le faire mourir pour blasphème, mais aussi pour jalousie, il faut dire ce qu'il y a. Et alors, à partir du verset 19, mais on va commencer au verset 17, Jésus répond. Vous savez, on entend des fois les gens dire, oui, écoutez, il faut faire comme Jésus, il ne faut rien dire, il ne faut jamais se défendre. C'est absolument faux. À la fin de sa vie, lorsqu'il savait que la croix maintenant était absolument certaine, pas qu'il ne le savait pas, mais disons que le moment était arrivé d'arriver à la croix, il n'a plus parlé. Mais l'évangile de Jean, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est sa défense. Il est constamment en train de se défendre par rapport à ses accusateurs. Paul, c'est pareil. Toujours en train de se défendre. Ici, Jésus donne une défense extraordinaire sur une accusation contre lui. Et alors, il le fait en cette preuve. Il veut ici donner, et il en donnera encore plein d'autres tout au travers de l'évangile de Jean, cette preuve de sa divinité, comme quoi il est Dieu incarné, il est Dieu en chair humaine. Voilà ce qu'il veut ici prouver. D'accord ? Alors voici la première preuve. La première preuve, la déclaration qu'il fait. La déclaration qu'il fait. Reprenons le verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Alors si vous êtes comme moi, vous lisez ça, cette phrase, et vous dites, franchement je ne comprends pas ce qu'il dit là. Hein? Cette phrase paraît pas très claire, un peu confuse, à première vue on ne comprend pas trop ce que Jésus essaie de dire. Mais, pour comprendre le verset 17, rappelez-vous, la clé de comprendre, c'est le contexte. Il faut aller au verset 18. Parce qu'au verset 18, nous nous rendons compte ce qu'il voulait dire par là. Et ce qu'on comprend, c'est que ce qu'il voulait dire était très bien compris par ceux qui l'écoutaient. Tellement important que cela a suscité une réaction instantanée des Juifs et a déclenché en eux le désir de le faire mourir. Alors vous dites, mais attends, je ne comprends pas. Cette phrase au verset 17, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi. Ouais, j'agis comme mon Père. Mon Père agit jusqu'à présent, j'agis aussi. Pourquoi est-ce qu'il veut le tuer après cette phrase? Ça ne paraît pas très logique quand même. Eh bien, parce que dans cette déclaration, Jésus affirme purement et simplement qu'il est égal à Dieu. Il affirme sa divinité. Alors, je répète un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. D'accord ? Au verset 16, il dit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il le faisait ces choses le jour du sabbat. Alors, Jésus venait de guérir un homme qui était paralytique depuis 38 ans, qui se trouvait à la piscine de Bethesda. Au lieu de se réjouir de cette guérison, les Juifs se mettent dans une colère monstre parce que Jésus avait guéri cet homme le jour du sabbat, considérant que le miracle qu'avait fait Jésus constituait un travail et donc une violation du jour du sabbat. Vous allez à ce que j'ai dit la semaine dernière pour le comprendre. Jésus leur répond, alors maintenant verset 17, « Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. » Donc, le contexte, c'est le débat sur le jour du sabbat. Alors, est-ce que Dieu s'est reposé le jour du sabbat, le septième jour ? Oui, Genèse 2, 2 à 3 nous le dit. Il se repose de son œuvre de la création. Il crée, ensuite il s'arrête pendant un jour. Il admire sa création. Jésus ici pointe à l'œuvre continue de Dieu comme justification pour son activité le jour du sabbat. En fait, ce qu'il est en train de dire, il a dit, le fait que Dieu s'est reposé le jour du sabbat ne veut pas dire que Dieu n'agit pas le jour du sabbat. Il dit, mon Père, regardez verset 17, agit jusqu'à présent. Est-ce que Dieu, la question, voilà, aujourd'hui on est dimanche, alors disons que le jour du sabbat c'est samedi, est-ce que Dieu fait rien le samedi ? Bien sûr que non, il fait beaucoup de choses. Même s'il y a un jour de repos, est-ce que Dieu fait des choses ce jour de repos ? Bien sûr, par exemple, il soutient sa création. Hier, on est allé se promener, on est allé à Saint-Gervais, on a fait une balade de 3 heures. Avec les Alpes, mais ça coupait le souffle, c'était génial. Puis alors la vie, on est dans la forêt, puis il y avait des petits moustiques partout, ça bourdonnait d'activité, il fallait presque mettre un masque, pas vraiment, disons, d'accord. Mais la vie, les fleurs, ces fleurs tellement parfaites, cette montagne, les glaciers, les nuages, attends, qui soutient cette création ? Dieu. Est-ce qu'il fait ça que 6 jours sur 7 ? Non. 7 jours sur 7. Voilà ce que Jésus est en train de dire ici. Il soutient l'univers, il donne la vie. Pourquoi est-ce que ton cœur bat ? Tu te posais la question, moi ça fait 63 ans qu'il bat. Je ne dois rien faire, je ne dois pas pousser un bouton, ça bat. Vous avez déjà vu, ils montrent à la télé, ils font des opérations, ils sortent en cœur et on voit le cœur battre tout seul. Mais pourquoi il bat le cœur ? Hier, on regardait un arbre, on a un petit arbre que Meg a planté chez nous, et on était en train de manger à la terrasse, je regardais l'arbre et je lui ai posé la question, où est le cœur de l'arbre ? C'est-à-dire, pourquoi ? Parce qu'un arbre, c'est drôle de truc, tu mets dans la terre, tu mets de l'eau, il y a des branches qui sortent, il y a des racines, mais le cœur, il est où ? C'est-à-dire, si tu dissectes un arbre, ça commence où exactement tout ça ? Alors voilà, tout ce que je suis en train de dire, c'est que l'activité de Dieu, elle est non-stop, inclut le jour du sabbat. Et est-ce que c'est un mal que Dieu exerce ce travail pendant le jour du sabbat ? Non, bien sûr que non. Non. Et de ce fait, il n'est pas un mal, voici l'argument de Jésus ici, que son fils fasse aussi des œuvres de grâce et de miséricorde le jour du sabbat. Si Dieu opère son œuvre pendant le jour du sabbat, est-ce que c'est un mal que le Fils guérisse un malade paralytique depuis 38 ans le jour du sabbat ? Réponse, bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, ne ratons pas le détail ici. Ne ratons pas le détail. Il se trouve dans le pronom personnel qu'utilise Jésus. Il dit, regardez, verset 17, « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Il dit, « mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Le vrai problème pour les Juifs, c'était en fait ça. Jésus affirme que Dieu était son Père. Il dit, mon Père, il ne dit pas notre Père, il ne dit pas votre Père, il dit mon Père. Et ses opposants n'ont pas raté ce détail. Regardez le verset 18 maintenant. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Alors, de nouveau, nous, je crois qu'on rate. Moi j'ai raté, j'ai dû l'analyser pour comprendre. Mais quand quelqu'un dit, voilà, mon Père, on dit, ah ouais, bon, ben, alors c'est peut-être un chrétien. Beaucoup de gens appellent Dieu mon Père. Mais quand Jésus appelle Dieu mon Père, il est en train, en fait, de dire que je suis le Fils de Dieu. Ça veut dire que Jésus est en train de prétendre ici à eux être le Fils divin d'un Dieu divin. Dans le cas de Jésus, écoutez bien ce que je vais dire, c'est vraiment important. Jésus était le Fils de Dieu, littéral, de manière que vous et moi, on ne l'est pas. Parce que Jésus avait comme maman Marie, mais comme papa, le Saint-Esprit. Je répète, la maman de Jésus, c'était Marie, mais le papa de Jésus, c'était le Saint-Esprit, nous dit Luc 1. Nous sommes fils de Dieu parce que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. C'est très différent. Nous avons été adoptés en tant que fils de Dieu, mais Jésus, lui, est le seul homme réellement le fils de Dieu parce qu'il a été conçu par Dieu lui-même. Il est donc égal au Père dans sa nature divine, et cela le fait égal à Dieu. Et pour les Juifs, ça, ils ont capté tout de suite, parce que pour eux, c'était un blasphème. Quel homme aurait pu prétendre être Dieu, ou le Fils en nature de Dieu? Ben, le seul qui aurait pu le faire, c'était celui qui l'était, et Jésus l'était. Mais eux, ça, ils ne voulaient pas l'accepter. Et donc, c'était un blasphème punissable de mort. Et c'est exactement ce que le verset 18 dit. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ils ont parfaitement compris et capté ce que Jésus était en train de leur dire. Voilà la première preuve de sa divinité, sa déclaration. Sa déclaration. Écoutez, on est qu'au chapitre 5. Déjà, ils veulent sa peau. Deuxième preuve, les œuvres qu'il accomplit. Les œuvres qu'il accomplit. Regardez verset 19. Alors Jésus reprend la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Alors quand Jésus dit en vérité, il est en train de dire, alors pas qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies, mais il dit, écoutez, ce que je veux dire maintenant, c'est vraiment, vraiment, vraiment vrai. Alors écoutez bien, c'est important, d'accord? Il le dit, il a dit à plusieurs reprises ici. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. C'est incroyable ce qu'il dit là. Jésus vient d'être accusé de blasphème, et c'est ce qui constitue un crime méritant la peine de mort. Alors comment est-ce qu'il réagit? En affirmant encore plus fort la véracité de ses propos, mais cette fois en le prouvant. Vous voulez pas croire que j'affirme être le Fils de Dieu? Ok, je vous le prouve. Paf, paralytique. Paralytique guéri après 38 ans. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, je fais les œuvres du Père. Je fais les mêmes miracles que le Père fait. Alors bien entendu, les œuvres dont parle Jésus ici sont les miracles qu'il effectue. Jésus affirme agir selon la volonté et conforme à la volonté du Père. Et ce qui est intéressant, c'est encore ces petits mots. D'accord? Il dit, et, regardez voir, tout ce que le Père fait. Attends, ce petit mot est quand même pas rien. Tout ce que le Père fait, le Fils fait aussi pareillement. Non mais d'ailleurs, si moi je disais ça, on me lapide sur le champ, quoi. Tout ce que le Père fait, tout, je fais exactement pareil. Alors, est-ce que quelqu'un nierait la capacité pour Dieu de guérir un paralytique? Non, bien sûr que non. On dirait, ouais, non, Dieu, il peut faire ce qu'il veut, guérir le paralytique comme ça. Ben, Jésus l'a fait aussi. Personne ne nierait la capacité pour Dieu de créer du vin à partir d'eau. Si on dit Dieu a créé du vin, il y avait de l'eau, puis il a créé du vin, oui, Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Oui, mais Jésus l'a fait. Personne ne nierait la capacité pour Dieu de créer l'univers. Mais non, Dieu, si Dieu a créé l'univers, c'est facile, facile ça. Mais Jésus, Jean 1:3, toutes choses ont été faites par elle, donc la parole faite chair, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Ce dit verset vient de dire que Jésus a créé le monde. Quand même pas rien. Ça fait penser à Colossiens 1:16, car en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire quoi ça? C'est génial, vous ne trouvez pas? Donc Jésus est en train de dire tout simplement, écoutez, tout ce que Dieu peut faire, tout, moi aussi. Alors, ou bien il est gonflé, ou il est Dieu. Il y a deux solutions là. Verset 20, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il vient le prouver qu'il est le Fils de Dieu, d'accord, déjà. Donc, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Au verset 20, Jésus décrit sa relation avec le Père comme étant une relation d'amour, que les œuvres qu'il fait ne sont rien comparées aux œuvres encore à venir, qui elles seront encore plus spectaculaires. Écoutez, Jésus ira même à ressusciter des gens comme Lazare par exemple. Donc là, ils n'ont encore rien vu les gars. Ces miracles de Jésus ont comme but d'être tenez ses auditeurs au point où ils croiront que Jésus est réellement le Fils de Dieu, selon le but de l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 30. Et en fait, le verset 21, quelque part, nous donne une des preuves, ou une des œuvres plus grandes que Jésus peut accomplir, et c'est le troisième point, d'accord, la troisième preuve. Donc, on a vu les sept preuves de la divinité de Jésus. 1, la déclaration qu'il fait. 2, les œuvres qu'il accomplit. 3, la vie qu'il donne. La vie qu'il donne. Verset 21, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Vous savez, il faut s'arrêter sur chacune de ces phrases et y réfléchir. Jésus vient de prétendre d'être le Fils de Dieu, donc égal à Dieu. Et donc c'est logique qu'il peut accomplir même les œuvres que Dieu accomplit, dont celui-ci, celui de ressusciter les morts. 1 Samuel 2:6 dit de Dieu, « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. » Il y a des exemples dans l'Ancien Testament de résurrection. Alors personne n'ira. Est-ce que Dieu peut ressusciter quelqu'un? Répondre, bien sûr. Bien sûr, ça paraît logique. Surtout que c'est lui qui a créé la vie, donc il peut parfaitement ressusciter quelqu'un. Mais est-ce que Jésus peut faire pareil? Ben moi j'ai toujours aimé cette histoire dans Luc 7. C'est complètement dingue, je trouve. Dans Luc 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui, et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens dans la ville. Quand on était en Israël, à un moment donné, on était dans le car et on a dû s'arrêter parce qu'il y avait un enterrement. Alors, il y avait une foule de gens qui sautaient. Ouais. Avec, on voyait le mort porté sur les gens, comme on voit un petit peu à la télé. Et je me rappelle penser à Luc 7 à ce moment-là. Donc il y avait peut-être des centaines de personnes avec ce mort emballé. Quoi. Enfin, comment dire, pas emballé, en rebé. D'accord ? Il était mort, ils allaient l'enterrer. Et alors, il y a beaucoup de gens dans la ville. Verset 13, le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Elle lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Attends. C'est un enterrement. On est en train d'aller au cimetière pour enterrer le mort. Ils sont convaincus, ils savent qu'il est mort. Il est déjà dans le cercueil. Jésus, arrêtez les gars. Tac, touche le cercueil. Jeune homme, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Mais allez voir, c'est quand même génial. C'est incroyable. Donc, qu'est-ce que Jésus dit ici? Mais il dit que il peut faire exactement ce que le Père fait. Il peut donner la vie. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsque Jésus sera mort, 3 jours plus tard, il se ressuscitera lui-même. Ça, il faut le faire aussi. Et dans Jean 6, 47, il le dit comme ceci par rapport à la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc non seulement il peut donner la vie physique, mais il peut donner la vie éternelle. Et c'est intéressant, à la fin du verset 21, Jésus dit quelque chose d'extraordinaire. Le Fils donne la vie à qui il veut. Jésus agit en tant que Dieu, bien sûr, donnant la vie à qui il veut. Si ceci n'est pas une déclaration de la divinité de Jésus, je ne sais pas ce que c'est alors. Il est la source de cette vie. Quatrième preuve de sa divinité, le jugement qu'il rend. Verset 22. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Alors, ce verset est remarquable. Puisque Jésus et le Père sont égaux, le jugement de Jésus est le même que celui du Père. On apprend que le Père n'agit jamais seul lorsqu'il juge. Il a remis tout jugement au Fils, le jugement présent, mais aussi le jugement dans l'avenir. Regardez dans 2 Thessaloniciens, un verset assez remarquable, dans 2 Thessaloniciens 1 à partir du verset 7, il dit, au milieu du verset 7, « Lorsque Jésus, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié de ses saints. » Donc, c'est intéressant qu'on apprend que Jésus reviendra et c'est lui qui jugera. Lisez Apocalypse, vous verrez, Jésus revient et juge le monde. Donc, c'est précisément ce que Jésus affirme ici. Incroyable. Cinquième preuve de sa divinité, l'honneur qui lui est dû. L'honneur qui lui est dû, verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Écoutez, ce verset, moi, m'a frappé cette semaine. Alors, je le connaissais, mais là, c'est comme si je l'ai saisi pour la première fois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des versets comme ça, vous les avez lus toute votre vie et tout d'un coup, vous dites, est-ce que j'ai déjà vu ce verset ? C'est incroyable. Il dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Écoutez, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ce sont des paroles extraordinaires. De la même manière que le Père et le Fils sont les mêmes dans l'œuvre qu'ils font, dans la vie qu'ils donnent, dans le jugement qu'ils rendent, eh bien ici, le Père et le Fils sont égaux dans l'honneur qu'il aurait dû. Honorer ici, c'est le même mot utilisé pour honorer son père ou sa mère, honorer ses parents. Attribuer un respect. D'accord ? Mais est-ce que vous avez vu l'exclusivité de ces propos ? Il dit que la seule manière d'honorer Dieu le Père. Donc tu dis, oui, moi je crois en Dieu. Je crois en Dieu, d'accord ? Lui, il dit que la seule manière d'honorer le Père, c'est d'honorer le Fils. Si tu n'honores pas le Fils, alors quoi ? Tu n'honores pas le Père. Même si tu penses honorer le Père. Même si tu penses honorer le Père. Dans 16, 2, Jésus dit, ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jésus dit, il y a des gens qui disent, je loue Dieu, j'adore Dieu, et mettent à mort des chrétiens, pensant qu'ils font une œuvre pour Dieu. Réponse, faux. Complètement faux. Parce que ceux qui disent honorer Dieu sans honorer le Fils, selon ce que Jésus dit ici, n'honorent pas Dieu. Ils pensent honorer Dieu, mais en fait c'est faux. Non mais écoutez, c'est tellement radical, ça fait peur. Est-ce que vous connaissez des gens qui louent Dieu, sont convaincus qu'ils louent Dieu, sans louer Jésus ? Selon Jésus, ces gens perdent leur temps. Parce que si tu n'honores pas Jésus, tu n'honores pas le Père. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Au fait, combien de gens devraient honorer le Fils ? Tous. Tout le monde. Et dans le cas où ce n'était pas clair, celui qui n'honore pas le Fils, verset 23, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Vous dites, ouais, John, c'est un peu exclusif, là. C'est quand même vachement étroit, tu ne trouves pas ? Écoutez, je ne vais pas répondre, mais je vais laisser la parole de Dieu répondre. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui est mort pour notre péché et ressuscité pour notre péché ? Les autres chefs religieux ? Non. Un, Jésus-Christ. Dieu incarné. Vous dites, ouais, mais peut-être ce verset, John, il est peut-être un petit peu trop radical. Est-ce qu'il s'est trompé ? Ben écoutez, Acte 4, 12. Il y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel. C'est quand même pas rien, hein ? Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus, contexte. Vous dites, mais John, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'encore un peu plus clair à ce sujet ? 1 Timothée 2, 3, cela est bon, est agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Pourquoi ? Parce que lui s'est donné en rançon pour tous. C'est pour ça que, dans le catholicisme, quand j'entends que Marie est co-médiatrice, ça me gêne énormément. Parce qu'ici, nous savons qu'il y a un médiateur, Jésus-Christ, qui lui a donné sa vie en rançon pour nous tous. Un médiateur, pas deux, pas trois, pas quatre. Un. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Donc, ce verset, franchement, est clair. Et j'aime la clarté. 6. Septième preuve de la divinité de Jésus, la parole qu'il annonce, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Écoutez, puisque l'unité entre Jésus et le Père est totale et parfaite, les paroles de Jésus sont en fait les mêmes que les paroles du Père. Et de croire à cette parole qui est l'Évangile, hein, quand il parle de la parole, il parle de l'Évangile, elle donne la vie éternelle et épargne le pécheur du jugement. Et ce que je trouve absolument remarquable, c'est qu'il est dit qu'il n'y aura pour lui aucun jugement, c'est ce qu'il dit. En vérité, écoutez, il dit, c'est très important ce que je veux dire, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Tu ne seras jamais jugé. Jamais. Pourquoi ? Parce que Jésus a été jugé pour toi. Si tu crois en lui et tu le reçois comme sauveur et Seigneur. Mais John, je pêche encore. Oui, c'est vrai. Mais, Romains 8, 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça la grâce de Dieu. Malgré le fait que je pêche dans mon corps parce que je suis encore enrobé de ma chair, le pardon de Dieu, c'est comme une sorte de cascade d'eau perpétuelle sur ma vie, toujours en train de me gracier pour toutes ces pensées, ces paroles et ces actions que je peux faire qui sont à côté de la plaque. Et toujours, il me rappelle, je suis mort pour toi, j'ai pris mon péché sur toi et je t'ai donné ma justice. Je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Tu dis, mais c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Je devrais être jugé. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la grâce de Dieu est plus grande encore. En Jésus-Christ seul. Seul. Parce qu'il n'y a que lui qui peut pardonner le péché. Et ça, ça amène à la septième preuve de la dignité de Jésus. La déclaration qu'il fait, les œuvres qu'il accomplit, la vie qu'il donne, le jugement qu'il rend, l'honneur qui lui est dû, la parole qu'il annonce, et cette, la résurrection future qu'il effectuera. Waouh ! Verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Le Fils de Dieu, mes amis, pas un autre. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jésus déclare, on va très vite, verset 25, il déclare qu'un jour dans l'avenir, il ressuscitera les morts, qui sont donc déjà morts. Il les appellera et leurs corps ressusciteront, mais seulement ceux qui entendront sa voix. C'est une autre manière de dire que ceux qui auront cru en Jésus-Christ, cru en l'Évangile, eh bien, bien sûr, leur âme, lorsqu'ils meurent, va avec le Seigneur, mais un jour, leur corps sera ressuscité. En Corinthiens 15, ils ressusciteront un nouveau corps et sera réuni avec leurs âmes. Mais c'est seulement ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Personne d'autre. Verset 26. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Égalité absolue entre Père et Fils. Le Fils a la vie en lui. Waouh, ça veut dire qu'il a la capacité de ressusciter et même de se ressusciter lui-même, ce qu'il a fait. Il lui a donné le pouvoir de juger, verset 27, parce qu'il est le Fils de l'homme. Verset 28. Ne soyez pas étonnés. Parce qu'il dit, verset 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors bien sûr, Romains 3, 12 nous dit que personne ne fait le bien, nous sommes tous des pécheurs. Ici, le bien décrit et renvoie au verset 24, le faire le bien, c'est de faire ce qui est juste, et ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est de croire à l'Évangile. C'est ça le faire le bien. Ce n'est pas faire des bonnes œuvres. On sait très bien que ce n'est pas par les bonnes œuvres qu'on est sauvé, mais par la foi uniquement en Jésus-Christ. Ici, le faire le bien, c'est le faire ce que est la volonté de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Et faire le mal, dans ce contexte, c'est de rejeter l'Évangile. Tous seront ressuscités, nous dit la Bible. Ceux qui auront fait le bien, donc les chrétiens, pour la vie éternelle, ceux qui seront ressuscités en ayant rejeté Jésus-Christ ne seront pas pardonnés, eux seront jetés dans l'étang de feu, le lac de feu, nous dit Apocalypse 21. Et tout ça arrivera bien sûr à la fin des temps, vous pouvez réécouter Apocalypse. Alors voilà mes amis, cette preuve de la divinité de Jésus. Donc je vous pose la question. Qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Ça, c'est la question. Est-ce que tu es ébionite ou gnostique ou arien, ou nestorien, ou utéchien, ou utéchien, ou socinien, ou biblique, j'ai envie de dire, d'accord. Ouais. Que prétend Jésus ici? Qui est Jésus? Alors je termine avec ceci. Ça change quoi? Ça change quoi? Écoutez, ça change tout. Si Jésus est vraiment le Fils de Dieu, Dieu incarné, ça veut dire que Galates 2:20, mes versets préférés, est vrai. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, si Jésus est Dieu incarné et Jésus vit en moi, qui vit en moi? Dieu. Question. Si Dieu vit en moi, est-ce que ça devrait se voir? C'est ça l'application. Est-ce qu'une vie où Dieu réside dans le croyant devrait être visuellement différente qu'une vie où Dieu ne réside pas dans la personne? Alors, je vous donne une petite histoire que j'ai lue ce matin, j'ai trouvé intéressant. Toutes les religions sont bonnes, c'est ce que les gens disent. Ainsi s'expriment la plupart des gens quand on leur parle de Dieu. Ils se retranchent derrière cet argument qu'ils croient sans réplique. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui parlent ainsi ne pratiquent aucune religion. Voici un fait authentique qui prouve la fausseté de cet argument. Aux Indes, dans une gare de chemin de fer, le quai était envahi par une foule de voyageurs attendant le train prêt à entrer en gare. Le soleil était chaud. Un vieillard voulant traverser la voie tomba au milieu des rails, frappé d'insolation. Personne ne bougea. On avait reconnu à certains signes qu'il appartenait à la caste des intouchables. Ces malheureux qui ne peuvent faire que des travaux les plus vils et doivent vivre à l'écart de la population. Tout proche maintenant, on entendait siffler le train. Toujours la même indifférence. Mais un chrétien venait de pénétrer sur le quai. Il réalisa l'horreur de ce qui allait se passer. Il se précipita sur la voie, saisit le vieillard à bras le corps et le tira hors de la voie juste au moment où le train entrait en gare. Pourquoi, demanda-t-il au hindou qui était resté passif, laissiez-vous cet homme périr sur la voie? Oh, répondirent-ils, ce n'est qu'un paria, et notre religion nous interdit de toucher un tel homme. Et moi, reprit le chrétien, ma religion veut au contraire que je le sauve. On pourrait remplir de livres entiers des faits semblables. Toutes les religions sont bonnes. Un tel argument ne peut convaincre que ceux qui sont totalement ignorants de l'histoire des religions. Jésus a dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. Mes amis, est-ce que nous sommes radicalement différents de ceux pour qui Dieu ne vit pas en eux? Seigneur, merci de tout cœur pour ce texte qui est fondamental, qui est vraiment étonnant, qui est clair, Seigneur. Et oui, nous te remercions parce que Jésus-Christ, nous croyons que tu es le Fils de Dieu, que tu es celui qui est la même nature que le Père. Et tu es venu ici. La parole faite chair sur terre pour nous sauver. Toi qui n'as jamais péché, tu as pris notre péché sur toi. Et nous qui n'avions aucune justice, tu nous as gratuitement donné ta justice. Et là, nous avons appris ce matin qu'on ne sera jamais jugé et qu'on recevra la vie éternelle. Seigneur, à toi toute la gloire. Et je te remercie de nous aider aussi à refléter cette réalité. C'est une chose de le dire, mais Seigneur, si tu vis en nous, ça devrait se voir. Seigneur, aide-nous dans nos mariages, dans nos familles, Seigneur, au travail, avec nos collègues, avec nos voisins. Seigneur, que nous soyons tout simplement différents, imbibés du Sauveur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur, parce que ce n'est pas toujours le cas. Pardonne-nous parce que parfois notre chair prend le dessus. Parfois nous péchons en parole, en pensée, en action, Seigneur. Et parfois, le nom de Jésus est un peu blasphémé par notre comportement. Seigneur, pardonne-nous pour cela. Et nous savons déjà qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés si nous sommes en Christ. Seigneur, à toi la gloire. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Et amen. Voilà, écoutez, on n'a pas tout à fait fini. On a encore 10 minutes, d'accord? Et on fait ça depuis maintenant 3 mois. Question.